Radio G 101.5 FM.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trempez vite! Tu n'es pas chez toi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G, il est 19h et comme tous les lundis sur la meilleure radio d'Angers, c'est uniquement mon opinion, vous pouvez écouter la meilleure émission consacrée au 9e art, à la bande dessinée, le comics, le manga, le franco-belge, enfin tout ce que vous pouvez voir d'art graphique avec un peu de bulle, c'est ici que ça se passe. J'ai comme tous les lundis mes petits camarades, ce soir je suis en compagnie de Tony et Anthony, salut les gars.
Bonjour.
Ça va bien? Vous avez passé de bonnes, un bon week-end?
Oui.
Ouais. Bonne semaine. Shopping.
Fait... Oh mon dieu. Alors, on va pouvoir parler de plein de choses ce soir. Alors, on commence quand même
sauf
avec.
De shopping, s'il te plaît.
Je sais pas, il y a peut-être une BD, hein, Les accros du shopping, je ne sais pas.
J'ai un doute.
Ça doit exister.
Je la trouverai rien que pour t'embêter.
Les reines du shopping en BD. Au secours.
Oh, génial.
Alors on va commencer par un petit carnet noir, hein, parce que la semaine a été un petit peu
rude,
violente, on va dire. Avec déjà le décès lundi, je l'ai appris en sortant du studio, de Claire Bretécher, la grand-mamie, on va dire, de la BD franco-belge, 79 ans. La maman d'Agrippine, la maman des frustrés, qui a permis à beaucoup de dessinateurs et de scénaristes de travailler leur façon de raconter des histoires. Ce qui me semble que c'est une des premières à avoir viré les cases, en fait. Sur Agrippine, il y a des moments où il n'y a pas de...
Je ne sais pas si c'est une des premières, mais en tout cas, elle le faisait régulièrement. C'est surtout que c'était une des premières femmes en bande dessinée en France, parce que c'est quand même venu tardivement. Hein.
C'était quand même et déjà...
On en est encore sur un équilibre pas forcément évident entre les hommes et les femmes en bande dessinée. Mais c'est surtout que c'était un personnage qui était haut en couleur, quoi, qui était absolument... Enfin, je sais pas, je l'ai trouvé assez génial. C'était... Alors, du coup, voilà, t'as toujours l'effet de la personne vient de décéder, donc on s'intéresse immanquablement un peu plus à cette personne-là, et il y avait pléthore de vidéos qui ont circulé, des témoignages de Bretécher, des apparitions télé et ce que pouvait dire. Et je, voilà, ça a trouvé formidable, et du coup, effectivement, elle va manquer parce qu'elle fait partie du panthéon du 9e art en France, en tout cas chez nous.
C'est clair, elle avait reçu le prix.
Oui, bien sûr, elle avait été récompensée, évidemment.
Bon, ben, ciao l'artiste, hein, comme on dit. Et puis le deuxième décès qui est un peu plus récent et un peu plus surprenant, on va dire, un peu plus inattendu. Alors, on va pas dire qu'une personne âgée est plus...
Si, t'es en train de le dire, hein, dire.
On va dire que voilà, c'est les gens
c'est
sont
un peu plus dans l'ordre
proches,
des choses.
Voilà, un peu plus dans l'ordre des choses. C'est le décès d'Hubert. Tu sais ce qu'on dit, moi, à mon boulot, quand il y a un téléphone qui sonne, c'est tu ramènes l'apéro la prochaine fois.
Mais non, parce qu'on ne boit pas ici à la radio, c'est interdit.
Mais on peut boire après. Ouais. C'est le décès de Hubert. Alors, il y a plein de gens qui se sont dit, mais Hubert, attends, le nom me parle. Bah oui, faut savoir que le monsieur est non seulement scénariste, mais également coloriste de talent. Coloriste, on va pas parler des ogres dieux, parce que du coup, la couleur y est pour rien, non. Vu qu'il n'y en a pas déjà de base.
Non, mais il est sur Spirou en l'occurrence. Enfin, il l'était sur Spirou.
Sur Spirou. Pour la partie couleur, tu as été certainement plus expert que moi.
Oui, bah oui, parce que du coup, il a eu pas mal de connexions avec la boîte qui fait bœuf à l'époque de la boîte qui fait bœuf, quand Johan y était encore. C'est lui qui a créé un pont entre Hubert et effectivement la boîte qui fait bœuf. Donc, il avait déjà colorisé la voleuse du père fauteuil. Et puis après, voilà, il en a eu pléthore d'autres. Sa palette était géniale. Comme lui d'ailleurs, hein, puis comme sa manière d'écrire. Ah. Parce que voilà, quand tu parlais des Ogres Dieux, qui est quand même son succès majeur, mais il y a aussi Beauté, qui était absolument génial, que c'était quelqu'un qui adorait prendre les contes et les détourner.
Un album qui t'avait beaucoup plu aussi, avec c'était Monsieur Désir.
Ouais, Monsieur Désir, ouais, qui était absolument génial. Enfin voilà, il a plein de choses à son actif. Il avait un vrai talent pour l'écriture, un vrai talent pour la couleur.
Et Miss Patouche.
Et Miss Patouche, ouais.
Bah voilà, True l'artiste.
Bah oui, pareil.
Des œuvres de personnes à découvrir. Là, je dirais que l'avantage, c'est qu'ils sont toujours vivants à travers leurs bouquins. Et que c'est l'occasion de découvrir leur façon de parler. Et,
d'autant qu'il y en a un qui doit sortir bientôt. Enfin, en tout cas, il y avait pas mal de bandes dessinées en chantier. Donc voilà, on aura certainement, à mon avis, des livres de sa création post-mortem, quoi. Ouais.
Et puis on pourrait peut-être paraphraser une de ses œuvres, puisque c'était du coup ses bouquins, ce seront ceux de sa vie posthume.
Non, mais c'était toujours bien. Enfin, c'était toujours top, quoi. C'est cette manière de reprendre les contes et de me remettre au jour toute leur cruauté. Et il était passé maître dans l'art, tu vois, parce que bon, on me parlait de beauté, c'était clairement ça. Mais les ogres dieux, c'est ça aussi. Les ogres dieux, c'est un univers absolument pharaonique. Mais du coup, voilà, c'était son amour des contes qui transpirait. Et c'est bien dommage.
Et il le faisait bien.
Ouais.
Eh ben, on va leur dédier hein, cette émission. Parce que, bon, c'est notre toute petite chose qu'on peut faire. On ne peut pas faire grand-chose de plus. Notre modeste contribution. Ce soir, messieurs, de quoi avez-vous parlé? Alors toi, Anthony, tu avais envie de parler d'un truc, mais tu as oublié le bouquin.
Ouais, mais il va pouvoir en parler sans le bouquin.
Je peux en parler quand même.
Ah ben, tu peux, si tu peux.
Oui, je peux.
Tu veux ?
Oui.
Maintenant tout de suite ou tu veux attendre ?
Bah, si vous avez plusieurs histoires à parler avant, vous pouvez commencer parce que du coup j'en ai
des
qu'une seule.
Histoire à parler.
Et, ouais, oui, je parle très bien la française.
Pareil, je vois ça. Ouais.
Je vais ouvrir le bal. Si
ah
ça t'embête pas.
Ah bah moi je m'en.
Ouvre avec le bal des 12 princesses dont on a brièvement parlé.
Transition.
Ah non, du coup tu as pu voir la fin alors.
Mais oui, j'ai pu voir la fin. Alors, je vous avoue que les contes de Grimm, j'en ai lu quand même pas mal, mais je ne connaissais pas celui-là. Et je ne connaissais pas non plus l'éditeur. Je connaissais la dessinatrice, autrice, parce que je l'avais déjà chroniqué sur un autre livre dont j'ai perdu le nom. Alors, je redonne les références. Déjà, c'est Le bal des 12 princesses dans la collection Les merveilleux contes de Grimm. C'est signé Maria Sourducane. Et c'est aux éditions Les aventuriers de l'étrange. Tu connaissais le...
Non, ça ne me dit rien du tout.
Donc, c'est un petit bouquin alors, qui se lit malheureusement, selon moi, très très vite. Parce que c'est beaucoup d'illustrations. C'est très très joli. Et on est sur un petit bouquin. Alors, je n'ai pas le format dans la tête, mais on est sur vraiment un tout petit format. Avec des belles dorures sur la couve. Avec une espèce de petit. Une illustration un peu onirique. On a un personnage qui tombe et un personnage qui essaie de la rattraper. Ça me rappelle un dessin connu, mais j'arrive pas à remettre le nom dessus.
Sans doute, oui.
C'est pas grave. Et du coup, on suit l'histoire d'un jeune homme qui va aller se rendre au service d'un roi qui a besoin de personnes pour surveiller ses filles. Puisque ses 12 filles, tous les soirs, en fait, elles bousillent leurs chaussures. Alors, il y a le chausseur qui est, ma foi, le cordonnier, qui est le mieux loti, puisque lui, il renouvelle le stock de chaussures des princesses tous les lendemains. Et il faut savoir que chaque garde... Chaque personne qui a été chargée de surveiller les princesses disparaît mystérieusement, sans laisser de traces. Et du coup, on suit ce jeune homme qui va quand même arriver à comprendre quelque chose et à percer un petit peu le mystère et puis à résoudre, puisque je ne vous cache pas que le mystère des princesses qui démolissent leurs chaussures, bon pied bon oeil, tous les soirs trouve la résolution à la fin du livre. Moi j'aime beaucoup en fait le dessin de Maria Sourducane puisqu'on est sur quelque chose de très enfantin, très un peu côté crayon de bois, un peu crayon de couleur. Je sais pas comment tu me confirmes ou pas. Ça fait ça.
Je pense que du coup il y a pas d'ancrage à proprement parler. C'est il travaille à partir de sans doute. Je pense qu'il encre pas avec un pinceau. Je vois, c'est assez loin en fait.
Je te le passe.
Merci.
Alors tu dis il, mais c'est une dame.
Elle, pardon. Elle. Effectivement, je suis désolé.
Il y a un côté au niveau des visages qui est relativement simple, mais qui au moins a pour but de bien transmettre les émotions sur les visages.
Non, ça a l'air d'être fait au pinceau malgré tout. En tout cas, c'est ce qui en ressort. Non, si, je pense qu'effectivement, c'est du pinceau. C'est un ancrage qui est assez gras, mais après, on est sur des personnages que moi, j'aime bien appeler des personnages chewing-gum. C'est-à-dire qu'on pas de...
Oui, bon, ils ont des coudes,
mais des fois, il y a des espèces de bras comme ça qui... c'est très joli. Après, c'est sa mise en couleur, en fait, qui donne cette espèce de sensation, parce qu'elle gratte un peu ses couleurs, comme si elle faisait un peu, effectivement, comme tu disais, du crayon de couleur ou de la carte à gratter. Et du coup, ça confère une atmosphère assez, comme tu disais, onirique.
On
très
est
conte,
très
quoi.
Proche du conte de fées, en fait, dans la
joli,
sensation,
hein.
En fait.
Ouais, c'est joli. C'est
et
très
ça
joli.
Passe super bien.
Et c'est une très belle palette. Ouais, c'est ça, elle gratte beaucoup. Ouais. On est vraiment dans de la carte à gratter, enfin, technique carte à gratter, mais c'est fait en numérique.
Eh ben, ouais, pour du numérique, je trouve que c'est plutôt le rendu est plutôt bon. Ouais. Enfin voilà, si vous voulez lire une petite histoire à vos enfants le soir, n'hésitez pas. Alors la collection comporte déjà un autre volume, je pense qu'ils vont se lancer un petit peu dans tous les contes de Grimm, mais certainement pas des plus simples, parce que là il y a déjà Les Lutins et le Cordonnier.
Ah, celui-ci je le connais pas du tout.
Et ben voilà, c'est l'occasion de découvrir. Je leur donne les références, c'était le bal des 12 princesses, c'est de Maria Sœur Duquesne, dans la collection Les Merveilleux Contes de Grimm, et c'est aux éditions Les Aventuriers de l'Étrange que je découvre et que je pense je vais surveiller s'ils nous font des petits bouquins aussi sympas à chaque fois. Voilà.
Donc, super.
C'est ton tour, mon cher ami.
C'est mon tour, alors. Du coup, Seb, est-ce que tu aimes le Japon?
Oui.
Ouais. Est-ce que tu as aimé le film Mémoire d'une geisha ou le livre si tu l'as lu?
Alors, j'ai vu le film, j'avais beaucoup aimé, mais j'ai pas lu le livre.
Et ben dans ce cas-là, tu vas aimer en fait Parfum de soie. Parfum de soie, c'est une BD. Pour une fois, ce n'est pas un manga. Je vais reprendre les références sur internet pour pouvoir les repréciser.
Je vais te chercher. Continue à parler, je vais chercher.
C'est gentil. Donc, Parfum de soie, c'est l'histoire d'une petite fille dont le papa n'a visiblement plus d'argent et décide de la vendre à ce qu'on appelle un okiya, à savoir une maison de geisha.
C'est une mère maquerelle, quoi, la okiya, en règle générale. C'est ça ?
Le côté maquerelle, il me gêne, parce que du coup, ça sous-entend de la prostitution, alors que c'est pas le cas des geishas.
Excuse-moi.
Donc, cette petite fille qui croyait venir juste pour la livraison d'un kimono accompagné de son papa, en fait, se retrouve à rester sur place et à devoir être la petite servante, en fait, quelque temps. Et elle va rencontrer une autre petite fille qui est servante également dans cette okiya, mais revirement de scénario, elle va pas seulement être servante. Car, en fait, il y a des petites intrigues derrière qui font que ce n'est pas son amie et petite servante avant elle qui va devenir le geisha, mais elle. C'est-à-dire que quelqu'un, on ne sait pas qui, lui a payé des cours très chers pour pouvoir devenir geisha. Donc c'est sur ces événements, le fait d'être complètement perdu, de ne connaître rien des codes des geishas qu'on va découvrir en fait à travers les yeux de Isako, ça c'est son nom, à travers les yeux d'Isako on va découvrir en fait ce monde, ces intrigues et surtout les intrigues de pouvoir et de jalousie entre femmes etc. qui peut y avoir comme enjeu.
Au sein d'un okiya.
Hein?
Au sein d'un okiya en fait.
Au sein d'un okiya ou du monde directement, parce qu'en fait forcément ces femmes-là se font acheter leurs services par des hommes. En général, les services d'une geisha, ce sont des services très onéreux. Donc on va avoir des hommes assez puissants et forcément elles vont entendre des conversations etc. ou faire l'objet de disputes. Leur beauté va faire l'objet de disputes en fait et de guerres d'argent entre divers hommes de pouvoir. Et donc le but de cette jeune fille pour s'en sortir, ça va être non pas de s'enfuir, mais d'essayer de tomber au moins sur une personne qui pourra pourvoir en fait à ses besoins comment dire un minima de liberté.
Obligations. Ok.
Ouais. Donc du coup, elle va se mettre en tête de plaire en fait au daimyo, à savoir le grand seigneur de l'histoire.
Ouais, tape haut quoi.
C'est ça, parce qu'elle l'a entendu, parler en fait d'un art ancestral. Du Japon, un peu perdu à cette époque-là, mais qui existe bel et bien, à savoir l'art en fait des parfums, c'est-à-dire l'art de savoir sentir en fait les diverses essences qui sont brûlées avec des petits morceaux de bois.
D'accord.
Donc avec les images qu'ils évoquent, etc. Donc du coup, il y a tout un... Comme tous les grands arts japonais, il y a également tout un cérémoniel autour, etc. Toute une esthétique, en fait. Toute une esthétique du geste, etc. Et en fait, c'est ce que la BD va nous montrer. Surtout dans sa seconde partie. Et en effet, c'est ce qui transparaît directement sur la couverture. Sous la couverture, vous aurez Isako... Dans la force de l'âge, avec son plus beau kimono de l'histoire, avec une posture stylisée comme on peut le voir sur des fresques parfois japonaises, avec du coup cette senteur de parfum qui émane du bol qu'elle a dans la main. Tu le fais très très bien, Sabine. Il est en train d'imiter la posture d'Isako, c'est magnifique.
Après, la couverture est vraiment très très belle en termes de dessin. Il y a un côté un peu, je sais pas, éthéré.
Oui.
Avec quelques volutes en plus qui partent de sa main.
Bah, c'est vrai que ça fait très ça, en fait. Quand on se dit une cérémonie de l'encens, tu vois, on imagine ouais, vraiment un truc un peu vaporeux, etc. Un truc qui plane sur fond d'LSD.
Non, je suis pas persuadé, ça, pour le LSD, par contre, mon cher ami.
Mais voilà. Alors, justement, c'est ce qui était très surprenant, en fait, c'est que le Japon de cette époque-là, à part, du coup, les riches habits des geishas qui sont très colorés, très recouverts de brocart, etc., on va avoir quand même pas mal de couleurs plutôt ternes, finalement. Il fait pas beau, le sol est boueux, les vêtements sont sombres, en général, dans des tons unis. Et lorsqu'elle va commencer, en fait, à éveiller son nez, grâce aux entraînements d'un maître qu'elle trouvera, et ben là, en fait, les pages vont complètement changer de couleur, en fait. Elles vont devenir beaucoup plus vives, beaucoup plus vivantes, pour le coup. Et lors de la fameuse cérémonie de l'encens, et c'est pas du spoil que de vous le dire, il y a vraiment tout un travail de la couleur, en fait, et du mouvement qui est fait sur la fumée, en fait, qui s'échappe des encens. Où vraiment, on a l'impression que cette odeur, elle est palpable. Et lorsque les personnages nous disent ce qu'ils sentent ou ce qu'ils ressentent avec ces fragrances, bah, on a l'impression de vraiment y être, quoi. En tout cas, tout le jeu de la couleur est fait là-dessus, sur le fait qu'avec un nez entraîné et, entre guillemets, éveillé, tout nous paraît plus intense, plus vibrant. C'est presque synesthésique, en fait, comme expérience.
Parfait.
Donc déjà, il y avait le thème du Japon, moi, qui me plaisait énormément. J'ai jugé un livre, encore une fois, à sa couverture, et ça a payé, parce que vraiment, c'est dans mes trois tip-top avec le Mémoire d'une geisha et Sakurane. Donc j'ai trois histoires, en fait, sur le Japon de cette époque, de l'ère Edo, si je ne me trompe pas, qui sont vraiment, vraiment très intéressantes, parce que c'est aussi une histoire tragique, pour le coup, ça ne peut pas bien se finir.
D'accord. Par contre, un seul tome, c'est ça?
Oui, c'est un... Donc, tu connais mon amour pour les histoires courtes, où on voit une fin rapidement. Du coup, c'est bel et bien un one-shot.
D'accord. Je vais redonner les références, hein, du coup, puisqu'il s'agit de Parfum de Soie. Alors, c'est scénarisé par Isabelle Plongeon et Carole Breteau, illustré par Dana Dimat.
Diamat.
Diamat. Non, Dimat. J'ai la couve, en fait.
Ah, d'accord.
Et c'est colorisé, puisque du coup, tu as fait l'apologie des couleurs, par Andrés José Mossa et Manon Duverdon. Et c'est aux éditions Soleil.
Je recommande chaudement.
Eh ben écoute, par ce temps-là, quand on a un truc recommandé chaudement, on se jette dessus. On se fait une petite pause musicale, il est 19h17 sur le 101.5 de Radio G, on se retrouve juste après.
Juste après.
Concentre-toi, tu voulais quoi?
Ah, je voulais I Your Love de Whitney Houston et Kygo.
Eh ben on se retrouve juste après, I Your Love de Whitney Houston et Kygo.
Be a higher love down in the heart or hidden in the stars above. Without it, life is a wasted time. Look inside your heart and I'll look inside mine. Things look so bad everywhere in this whole world. What is fair? We walk the line and try to see. Bring me a higher love, oh.
Sur le 101.5 de Radio G. Vous êtes de retour dans la case de Seb. Qu'est-ce qu'il y a, mon cher Anthony ?
Eh ben, tu vois que ça valait le coup de la mettre, cette chanson.
Pourquoi ?
Ça fait quand même 2 semaines que je l'attends.
Oui, ben, écoute, tu pourras attendre 1 semaine de plus la prochaine fois que tu me demanderas un truc, vu que t'es pas gentil.
Si, je suis gentil.
Non.
J'ai dit merci quand tu l'as mise.
Allez, ta prochaine chronique, je l'écoute. Ah,
ben
voilà. Tu verras la prochaine fois que tu t'essaieras de pas être
machine,
gentil.
Moi, je peux pas passer mes journées à lire.
Non, il faudrait.
Bah, si je pouvais, ouais.
T'apprends des mots, t'as vu ? T'as progressé depuis que t'es... Allez, chers amis, on est de retour dans l'émission 100% 9e art. Moi, je vais vous parler de quelque chose qui franchit un petit peu les limites de 9e art, sur un artiste que je ne connaissais pas. Il s'agit de Jean-Michel Basquiat. Ça te parle, toi ? Tu connaissais ou pas, le monsieur ? Ah, j'ai coupé ton micro. Voilà, vas-y.
Non, bah, je disais non, en fait, donc non.
Alors moi, le nom me parlait, et quand j'ai pris ce bouquin, qui est publié aux éditions Soleil et scénarisé, dessiné par Julian Volov et Soren Mosdal, je me suis dit, tiens, ce nom-là, je le connais. Alors, est-ce que c'est un musicien ? Est-ce que c'est un dessinateur ? J'avais un gros doute, puisque du coup, on est une ambiance un petit peu de jazz. Je sais pas comment, tu sais, le jazz enfumé qu'on peut... Pas la couve bleue comme ça me faisait penser à ça.
D'accord.
Sauf qu'en fait, non. À le lire, tu vois, on se rend compte que non. Et du coup, j'ai découvert cette espèce de biographie romancée sur cet artiste qui a eu une vie hyper dense au final et hyper courte. Il fait partie des gens qu'on pourrait qualifier des membres du club de 27.
C'est ça, ouais.
Parce qu'il est décédé à 27 ans. Il n'y a pas si longtemps que ça, au final, une trentaine d'années, puisqu'il est né en 1970. Et c'est un enfant terrible de l'art, en fait, puisque il a quitté très très vite sa famille. Il a eu des conflits assez compliqués avec son papa. Et puis, de fil en aiguille, il s'est constitué une espèce de réputation en créant des graphes sur les murs de... je cherche les... de Brooklyn, il va se faire repérer par des gens très connus, il va se mettre à exposer dans des galeries, et puis il va être pris sous le bras par un monsieur très très connu et très influent du domaine artistique de l'époque, à savoir Andy Warhol. Et qui du coup va, ça va être une relation un petit peu bizarre parce que du coup il va essayer de le pousser en avant, puis il va parler de lui sans parler de Basquiat, alors que il y a des moments il y avait des infos qui étaient des expos qui étaient censées être consacrées à Basquiat, et du coup il y a cette espèce de relation amour-haine entre les deux qui est hyper compliquée et qui pour beaucoup et on va dire va être la cause en fait de la descente aux enfers de Basquiat qui mènera à son décès par opiacé à 27 ans.
Elle a une overdose, quoi, concrètement.
Ouais, complètement. Alors, ce qui est génial, autant le dire de manière assez franco, c'est que j'étais pas hyper fan, en fait, du dessin au départ, mais ça fonctionne hyper bien, puisque après avoir été rechercher un peu les œuvres de Basquiat, on est sur un truc qui est... Ça a l'air brouillon, en fait, ça a l'air... ça tient beaucoup, beaucoup du graphe. Il y a beaucoup de traits très prononcés, il y a beaucoup de... On en avait un dessin par là. Il y a beaucoup de choses comme ça, en fait, ça, c'est très dense, très travaillé, il y a beaucoup de thèmes, en fait, qui ressortent sur une même œuvre, et ce qui donne un truc qui peut être analysé pendant des plombes, avant vraiment de comprendre ce qu'on a vu, quitte à ne pas l'avoir compris du tout, puisque alors j'ai pour habitude de dire qu'on ne comprendra jamais une œuvre d'artiste sans qu'elle nous soit expliquée par son auteur. Mais du coup, c'est vraiment quelque chose de très particulier. N'hésitez pas à aller voir. Ça permet de faire des petites allusions aussi dans le bouquin à des choses un peu christiques. Et c'est une belle découverte. Et je me suis plongé dans certaines de ses œuvres après en disant « mince, j'avais pas compris ça ». Faut savoir que bah, du coup, par sa vie américaine et puis ses accointances avec Andy Warhol, Basquiat va être amené à côtoyer des personnes hyper célèbres. Et du coup, on a un petit glossaire, on va dire, des personnes rencontrées au détour d'une case ou des personnes ayant côtoyé Basquiat. Faut savoir que, par exemple, il a été, il a tourné un film avec Debbie Harry. Ça te parle ou pas? C'est la chanteuse de Blondie.
Oh.
Et du coup, ce film n'est jamais sorti. Donc c'est des trucs. Il a été amant d'une jeune Madonna Louise Tichon.
Ah ouais, bien.
Donc il y a plein d'autres personnes. Ouais. Il y a plein de personnes en fait qui ont côtoyé cet artiste maudit en fait. Et c'est hyper intéressant de se replacer ce personnage dans ce contexte. Il a été aussi amant avec un certain Klaus Nomi, pour ceux qui ne connaissent pas.
Wow, Klaus Nomi carrément.
Eh ouais.
C'est vraiment un petit monde assez fermé finalement, que ce soit le monde de l'art, des artistes, du spectacle même parfois. Et
il y a beaucoup de choses qui se côtoient.
Quand on commence à tirer un mot du chapeau, on a l'impression qu'il est attaché à plein d'autres noms comme ça qui viennent derrière. C'est hallucinant.
C'est clair. Et du coup, ça donne c'est une belle biographie, c'est un romancé avec toutes les, comment dire, on a un personnage qui va incarner, on va dire, toutes les turpitudes de Basquiat et tout ce qui le tracasse, tout ce qui est aussi son esprit créatif, hein. Une espèce de mauvais génie, en fait, qui lui donne à la fois du grain à moudre et à la fois, autant d'angoisse et de problèmes. Et ça rend quelque chose d'extrêmement intéressant.
Ça donne l'impression qu'en fait, c'est, à la fois ça lui permet de faire de l'art, mais en même temps que ça le ronge, quoi, parce que, enfin, l'apparence de ce génie, je suppose que c'est celui qu'on voit sur la couverture.
Oui, bah oui, c'est ça, hein, c'est son,
ça, ça ce donne vraiment une impression de mauvais doppelganger comme ça, qui se planque.
Mais c'est à la fois ses angoisses, l'incarnation de ses angoisses, et puis aussi certainement le truc est complètement boosté par toutes les drogues qu'il peut ingérer et qui l'aide à tenir, en fait. Donc bon. Tony, je te laisse redire les références, s'il te plaît.
Pardon, parce que j'ai le livre. Du coup, c'est aux éditions Soleil. Ça s'appelle Basquiat, comme le nom du peintre. C'est alors, je suppose que c'est scénarisé par Julien Voloff et dessiné par Soren Mosdal, mais je vais vérifier ça. Oui, c'est ça, dessin et couleur Soren Mosdal, scénario, Julian Voloff. Je suis désolé si j'écorche leur nom.
Alors Julian, qui avait fait, si je ne me trompe, le biopic sur Joe Shuster, le papa de Superman.
Ouais. Ah d'accord, peut-être. Oui, effectivement, peut-être.
Et qui était vachement bien aussi.
Donc il aime bien les biopics, ce monsieur.
Ouais,
semblerait-il.
Ouais, je voudrais qu'il fasse un biopic sur Frida Kahlo, alors.
Ah bah, tu lui écris, tu lui envoies un petit message. Si tu nous entends, Julian, un biopic sur Frida Kahlo, ce serait cool. Est-ce que je te laisse continuer, Tony?
Bah, on peut y aller, ouais, enfin, continuer, commencer. Mais du coup, moi, je veux bien parler... Alors, j'ai deux trucs ce soir, hein. Je vais parler de By Night dans un premier temps. Qui, soyons honnêtes, sera pas forcément mon coup de cœur de l'année, mais qui du coup est une lecture qui est plutôt plaisante. Donc By Night par John Allison, Christine Larsen et Sarah Stern, et c'est aux éditions Bliss Comics, si je ne m'abuse, c'est ça?
C'est ça, je crois que c'est la première fois qu'on parle de Bliss.
Ouais, c'est ça, c'est dans la collection Boombox. Donc c'est titré habilement sur la quatrième de couve avec le résumé. Il se passe quelque chose d'étrange à Spectrum, Dakota du Sud. Donc effectivement, il se passe quelque chose d'étrange. C'est l'histoire de deux jeunes filles, alors deux... Je pense qu'elles sont adultes, hein. À mon avis, on est sur
une
fille d'une vingtaine d'années à peu près dans ces eaux-là. Elles ont été à la fac ensemble. Elles se sont perdues de vue, hein, l'une et l'autre. J'ai plus les prénoms en tête. Je relis.
Dans ta décharge, je crois que tu l'as lu directement après l'émission de la semaine dernière.
Il s'est écoulé 15 jours entre temps. Ouais, Jane, en fait, qui travaille dans un laboratoire. Jane, c'est la jeune fille qui est métisse, qui travaille dans un laboratoire qui semble s'ennuyer ferme quand même dans cette bonne vieille ville de Spectrum, parce que du coup, il n'y a pas grand chose à faire. En fait, on est dans une ville en perdition. Il y avait une entreprise qui a fermé ses portes et qui du coup laisse tous les habitants, parce que c'est un peu le poumon économique de la bourgade, dans la panade. Et elle s'ennuie. Et un jour, en sortant du boulot, enfin en tout cas en allant acheter, s'acheter un sandwich pour sa pause, elle tombe sur Heather, en fait, qui est sa copine de fac. On a l'impression qu'elle n'est pas vraiment ravie de la revoir au début. C'est pas les retrouvailles, en fait, de deux copines qui se sont ultra appréciées par le passé. Voilà, il y a une espèce de petite distance. On ne sait pas vraiment pourquoi. Il y en a une qui a un tempérament de feu, c'est Heather, c'est celle qui arrive, enfin qui a... posée sur les marches. On apprendra par la suite que c'était pas un hasard, qu'en fait elle avait provoqué ce rendez-vous-là pour re-rencontrer sa copine d'antan. Et il s'avère qu'elle est fan d'Urbex. Alors Urbex, pour ceux qui connaissent pas, c'est
Urban Exploration.
Exactement, en fait, on choisit une ruine. Alors bien souvent, c'est codifié, hein. Du coup, on ne touche à rien, on visite, on se contente de visiter, on prend des photos, on ne dit absolument pas où c'est, parce que c'est le but du jeu. En fait, ça n'est qu'entre urbexeurs qu'on se passe l'info, et on passe un bon moment, voilà, peut-être à se faire peur, peut-être à... Et elle, c'est Urbex by Night, parce que c'est quand même un peu plus flippant que l'Urbex de jour, donc elle tente ça. Et figurez-vous qu'elles vont aller visiter l'entreprise qui a fermé, la fameuse entreprise dont j'ai une fois encore mangé le nom, les usines de Charles Wood, voilà, c'est ça. Je crois que c'est Spectrum, en fait. Spectrum, c'est le nom de l'usine, je me suis trompé, Charles Wood, c'est le nom de la commune.
Autant non, c'est pour ce moi, que t'as dit tout à l'heure, en fait.
Et du coup, son patron, le directeur de ces usines-là, a disparu de manière suspecte, étonnante, curieuse. Et voilà, la vie a repris son droit, bien évidemment. Donc, elles explorent ça de nuit, tranquillement, à la lampe poche, et elles tombent sur une espèce d'énorme... on dirait presque un caméscope à l'ancienne, enfin un truc monstrueux, voilà, qui est braqué contre un mur. On ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Et puis elles arrivent à l'allumer, et il s'avère que ça ouvre un portail vers une autre dimension, une dimension qui n'a pas grand chose à voir en fait avec la nôtre, parce qu'on est plutôt dans un truc d'heroic fantasy sous acide, hein, clairement. On a vraiment un univers relativement bigarré en termes de couleurs. Donc il y a les couleurs de notre monde, les couleurs du monde dans lequel elles vont. Ça n'a pas l'air de les choquer plus que ça, concrètement. C'est ça ce que j'ai aimé, moi, dans cette bande dessinée, c'est l'écriture du scénariste John Allison, qui est un auteur anglais qui s'est fait connaître notamment avec Giant Days et d'autres séries à succès, qui a reçu des Eisner Awards pour ces séries-là.
Ça me rappelle un peu les maîtres de l'univers, quand même.
Bah, il y a des petits trucs comme ça, oui, effectivement, on est sur des choses. Après, voilà, il y a un univers. Elle tombe sur un espèce de troll, en fait, qui tout de suite est assez pote avec eux. Une espèce de petit personnage vert, cornu, qui n'est pas plus choqué que ça de voir des nouveaux arrivants, qui est même plutôt heureux. On sent que peut-être il est pas forcément dans le monde dans lequel il devrait être. Voilà, en tout cas, c'est un peu comme on a l'impression de voir un chien qui est content de voir des gens. Tu vois, il y a des chiens comme ça, qui apprécient de voir des étrangers et qui sont toujours très heureux en se disant.
Non. Il remue pas.
Non, il remue absolument D'accord. pas. Il a quelque chose de très curieux et qui trimballe avec lui un squelette, en fait. C'est pas un siamois, c'est un squelette qui vit dans sa veste et qui ressort de temps en temps la tête pour balancer une petite saillie, sortir une petite diatribe, discuter avec. Donc voilà. On est déjà dans quelque chose de très curieux. Et ces deux jeunes filles-là, on est quand même à l'ère des réseaux sociaux, on est quand même à l'ère d'Internet, on est quand même à l'ère de. Tiens, si je devenais youtubeur et que je faisais un succès sur internet, je deviendrais riche immédiatement. Et là, elles se disent, attends, on a découvert un univers très particulier qui est, alors, au moment où elles le découvrent, elles ne savent pas encore, mais c'est peuplé de monstres, il y a des vampires, il y a même une chouette géante qu'on appelle le prophète, qui est une espèce de grand sage. Alors, avec un corps humain, bien évidemment, une tête de chouette hulotte. Il y a des personnages très, très, très étonnants. Et elles se disent, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec ça, eh ben, on va emmener notre caméra la prochaine fois et puis on va filmer tout simplement. Donc elles avaient la caméra, D'accord. mais je crois qu'elles aimeraient faire un film un peu meilleur. Voilà, c'est ça. Elles aimeraient faire un film un peu meilleur, donc elles y retournent une deuxième fois. Sauf que la deuxième fois, elles emmènent avec eux un des collègues de la première jeune fille, dont j'ai encore une fois mangé le nom. Je suis navré pour ça. Hop, excuse-moi, je regarde sur la quatrième de couve. Jane. Et sauf qu'elles ne reviennent pas tout de suite. Le premier voyage avait apparemment duré quelques minutes dans notre réalité, et là, pour le coup, il s'écoule un bon mois avant qu'elles reviennent, donc elles ont disparu. Donc ce jeune homme est censé alerter le papa de Jane pour que, bah, du coup, il trouve une solution pour les ramener. Et après, toute l'histoire se déroule comme ça. C'est pété de rebondissements. Alors c'est une belle fable aussi sur la différence, sur l'acceptation de, bah, voilà, de la différence. Qui est quand même un truc assez problématique à notre époque et qui ne va pas dans le bon sens, j'ai envie de dire. Donc c'est plutôt plaisant. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt ado-adulte. Moi, ce qui m'a énormément marqué, de par le fait que, encore une fois, c'est pas forcément le truc vers lequel je me serais orienté spontanément, c'est que j'ai trouvé ça très très bien écrit. Il y a même des moments où je me suis fait la réflexion, ça pourrait presque être dû au dire. Alors, la comparaison est un peu audacieuse, on va dire. De quoi, pardon ?
Non, mais j'adore les choses.
Elle est audacieuse. Tiens, il y a peut-être des pages que je vais réussir à retrouver où, du coup, les dialogues sont assez ciselés. Donc, je pense qu'il. Alors, déjà, il y a
un réel travail d'écriture.
Très bien écrit en anglais, évidemment. Mais il y a un gros travail de traduction en français. Et ça m'a marqué, ça m'a plu. Mais je ne vais pas retrouver ça, en fait.
Alors certainement aussi à travers le personnage du squelette là qui a ses petites saillies ou non même
ouais, en l'occurrence c'est surtout le personnage du père en fait, le père de Jane qui du coup je sais pas, j'ai eu l'impression de regarder une série avec des dialogues relativement bien écrits, donc ça m'a plutôt plu hein. Et je vais pas retrouver en fait hein. Tu connais sûrement cette histoire, Chet Charles a acheté ses terres à un parc d'attractions qui avait fermé, il était monté dans la grande roue enfant, du coup il l'a gardé. Non, c'est pas du tout ça en fait, ça
non,
n'a aucun intérêt. voilà, enfin sachez que en tout cas moi en termes d'écriture ça m'a plutôt plu et on passe un bon moment. Après on n'est pas sur un récit hautement ambitieux, on est sur une espèce de vague qui m'a un peu fait penser à je n'ai plus cette bande dessinée d'origine canadienne aussi qui s'appelait. Il y a eu un film.
Hikil Giants.
Non, alors Hikil Giants peut-être aussi, effectivement, on pourrait leur rentrer dans cette. Ouais, tu vois, du comics okay, indé ouais. Un peu léger comme ça, un peu tranquille. Non, je pensais à et ça ne va pas me revenir, c'est terrible. Un jeune homme qui joue de la guitare et qui vit tout comme Scott Pilgrim.
Scott
voilà.
Pilgrim.
Scott Pilgrim. Merci fou, ça m'est
yes.
Revenu tardivement.
Oh, oui.
Voilà. Donc voilà. Et on est sur un espèce de Sliders adolescent. Sliders était aussi adolescent à l'époque, pour ceux qui connaissent clair. La série, évidemment. Voilà, donc c'est plutôt plaisant. Je ne serais pas étonné, encore une fois, de le voir, peut-être, hein, si du coup, ça rencontre le succès. Et j'aurais tendance à penser que ça a bien marché, parce que si ça se retrouve chez nous, c'est que certaines personnes ont jugé utile de l'éditer. Enfin, en tout cas, intéressant de l'éditer. Ça peut faire une belle série chez Netflix ou sur une autre plateforme.
Eh ben écoute.
Voilà.
On attend de voir. Hein. Tu voilà. Redonnes les références.
Alors, By Night, de John Allison au scénario, Christine Larsen au dessin, Sarah Stern à la couleur, et c'est aux éditions Bliss Comics dans la collection Boom Box. C'est un gros pavé, hein, j'ai oublié de le dire ça, mais c'est quand même assez cossu.
C'est un gros pavé one-shot ou c'est un tome 1 ?
Non, c'est un one-shot. C'est un gros pavé, il n'y a pas le nombre de pages, il n'y a pas de pagination, mais on est quand même sur, je dirais, un truc qui excède facilement, à mon avis, les 400-500 pages. Ouais. Facile.
Pas loin.
Facile, facile. Et c'est dessiné par une dame qui a œuvré sur les comics Adventure Time. Ouais, j'ai oublié de le préciser.
Ah, voilà, yes.
Pour si ça peut vous aider à avoir un aperçu de ce que peut rendre le graphisme.
Ouais, il peut avoir une patte graphique qui est plutôt pas dégueulasse.
Une patte graphique assez souple, assez cartoon, assez plaisante.
Ok, on se refait une petite pause musicale, il est 19h38, et puis bon, je concède aux sirènes de la commercialisation du business avec le thème principal du prochain James Bond par Billie Eilish.
Oh, c'est bien.
No Time to Die.
Ouais, c'est bien, Billie Eilish, elle est jeune, mais c'est bien.
Just goes to show that that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for a lie? You were
Billie Eilish, No Time to Die sur le 101.5 de Radio G. Il est 19h42, c'est toujours la case de Seb. On vous parle toujours de bande dessinée, on n'a pas changé de thématique entre temps. Ça pourrait être rigolo, tiens d'ailleurs. On revient et puis on parle de musique créole, tiens. Pouf.
Ouais.
T'as la transition.
Non, mais ça peut. Ça peut.
À l'occasion d'une BD biopic sur la compagnie créole.
Oh la vache.
Monsieur Voloff, si vous entendez ça, un biopic sur la compagnie créole.
Moi.
Ah bah écoute.
Je suis pas prêt. J'ai d'autres projets avant de faire ça.
Je sais que tu avais d'autres choses dont tu voulais nous parler. Je te laisse parler maintenant.
Bah si tu veux, oui, comme ça ce sera fait.
Ah bah écoute,
hein, parfait. Non, je suis tombé. Alors c'est pas une nouveauté. Hein. C'est plus en fait parce que j'avais envie d'en parler, parce que je suis tombé dessus par hasard. Honte à moi, je suis passé totalement à côté de ce truc-là. On n'est pas encore une fois sur une nouveauté. On est sur une réadaptation est plutôt bien sentie de la part de Glénat Comics. Voilà, toutes les maisons d'édition se mettent aux comics. Hein. On a Urban, on a Glénat. Là, on a reçu des nouveautés.
Des choses de chez Humanoïdes Associés.
Voilà, avec la collection H1 qu'on chroniquera dans
alors ça,
dans...
Les Humanoïdes, c'était quand même déjà un peu comics, mais
oui,
pas
oui,
comics
mais
comme
là,
on
pour
l'entend.
Le coup, au format, etc. Et voilà. Et là, ils ont décidé de réadapter en souple, ce que je trouve absolument génial, parce que c'est un peu l'essence du comics, le souple, à la base, en tout cas, aux États-Unis, ce sont des fascicules, ce ne sont pas des beaux albums rigides comme on a chez nous. Ils ont décidé de rééditer cette petite merveille en fait qui s'appelle Captain Biceps, qui a échappé à personne hein, parce que c'est quand même sorti au début des années 2000,
une perle de dérision.
Ah oui, une perle de dérision. Oh. Bah, des deux auteurs qu'on ne présente plus maintenant aujourd'hui, Zep et Thébaud. J'aurais même tendance à penser que c'est un peu ce qui a propulsé Thébaud. Avant, il avait une série qui s'appelait Sanson et Néon.
Qui était
bien délire, qui marchait certainement très bien. Mais Captain Biceps, ça a vraiment été une espèce de décollage incroyable pour eux. Alors, les scénarios fous de Zep, ils sont certainement pour quelque chose. Le dessin de Thébaud également aussi, parce que son dessin, encore une fois, c'est un génie du dessin. Donc il réadapte ça. Donc là, dans ce petit comics, format comics souple, qui est pas, à mon avis, très cher. J'ai pas le prix là sous les yeux à ce moment-là. Je pensais que je l'allais voir avec le code-barre, mais je ne l'ai pas. Si tu vas vérifier sur internet, je pense que on n'est pas sur un prix très exorbitant. On a les trois premiers tomes qui sont sortis. À l'époque, tome 1, tome 2, tome 3, alors qu'ils s'appelaient respectivement, il n'y avait pas de titre en fait, donc c'était 1, 2, 3, c'est très bien ceci dit, 1, 2, 3,
c'est
comme
bien
ça,
2, 3, là. C'est descriptif.
Donc on est sur une compilation des trois premiers titres. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve en fait il faut savoir qu'à l'époque c'était pré-publié dans Cho, et que voilà, on a une mise en page qui est spécifique à Captain Biceps avec des petits hashtags, et au début on était sur Captain Biceps, ça c'est Elmer Ratto en fait dans le civil, Captain Biceps qui se frite contre des personnages alors qu'on connaît, parce qu'on est vraiment dans de la parodie pure et dure. Donc on a Hulk, voilà, Hulk, alors, c'est
Hulk.
Torchman en fait, c'est la torche humaine de... On a Batman, mais avec deux T, parce qu'il faut quand même essayer d'éviter un procès. Daredevil, écrit D-I-V-O-L en fait, pour avoir la traduction française. Et là, on a Captain Biceps versus l'étonnant Araignée Man. Voilà, ça n'aurait échappé à personne que c'est Spider-Man. Wonder Bra Woman pour Wonder Woman, ça j'aime beaucoup.
Ah, mais je le connais aussi.
Versus le truc... Et à chaque fois, c'est à mourir de rire. Tu parlais des gens qui abolissent les cases. Là, c'est clairement ça, en fait. On venait efficace au possible. C'est l'essence du gag qui est poussé à son paroxysme. C'est-à-dire qu'il y a très peu de décors. C'est pas de la... C'est une planche uniquement. Et moi, je trouve ça génial de bout en bout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des petits plus sur les côtés. Hein. Le truc est tellement balèze. Alors, on revient, en fait, on a un petit focus sur le méchant qui affronte Captain Biceps. Et à chaque fois, c'est d'une connerie extraordinaire. Enfin, moi, je suis fan absolu. Et je trouve que ressortir ça dans ce format-là, format comics, bon, déjà, en fait, il faut savoir que Captain Biceps, c'est un cri d'amour aux comics. Zep, comme Thébaud, c'est des furieux. Comme moi, ils ont grandi avec Strange. Comme moi, ils ont grandi avec Spidey, avec tous ces magazines qu'on pouvait trouver en presse à l'époque. Et c'est ce qui les a rendus amoureux dingues de tous ces super-héros qui sont ridicule, hein, concrètement. Ils se baladent en lycra à longueur de journée, ils sont consternants d'un point de vue graphique. C'est juste des choses qu'on a acceptées, ce sont des codes qu'on a acceptés. Mais sinon, un costume, c'est ridicule. Moi, je me suis rendu compte quand je travaillais sur Sticky Pants avec Xavier n'aime pas les comics. Il s'en fout, c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Et du coup, c'était essentiel d'avoir Xavier sur le projet parce qu'il voyait le côté ridicule des mecs en collant et il savait le restituer. Donc voilà. Donc là, clairement, il rend hommage et c'est clairement un cri d'amour aux comics. Alors sous l'angle parodique, parce que c'est ce que font de mieux ces deux auteurs, et qui retrouvent des dimensions comics. Donc je trouve que là, on est dans une espèce de mise en abîme en fait du truc. Voilà. Et ça sort chez Glénat Comics. Alors c'est une manière de découvrir ou de redécouvrir encore à nouveau, parce que moi, du coup, le fait que ça passe dans ce format-là, ça m'a beaucoup plu. Le fait que ce soit condensé, on a beaucoup plus de lectures d'un coup d'un seul. On est un peu moins frustré parce que les Captain Biceps se lisaient très vite. Ça se mangeait très très vite et t'étais obligé d'attendre en fait l'apparition des suivants. Donc voilà, c'est un chouette objet. En fait, une couverture vernie souple avec une. Je crois pas que le visuel de couverture. Je suis pas sûr qu'il soit sorti avant. Donc je pense qu'il a été fait exprès pour je suis peut-être en train de dire une connerie.
Je ne saurais te dire
au
là,
moment
alors,
où
là.
Je parle. Mais c'est pareil, c'est très efficace. C'est sur fond blanc. On a le logo Captain Biceps qui a pas bougé et on a. Captain Biceps qui est en train de mettre un bourre-pif monstrueux à Galactus qui est juste en fait en bord de page comme ça.
Ah, je l'ai reconnu,
c'est génial, graphiquement c'est super. Ça s'appelle Ultimate Fighting volume 1, donc voilà, attendez-vous à avoir le volume 2, le volume 3. C'est que du bon. Voilà,
ce que tu n'as pas dit et qui fonctionne encore, tu parlais de l'amour pour les comics, ouais. C'est que chacune des pages de gag reprend en fait l'identité visuelle d'une page de couverture de comics avec la partie Le saviez-vous, c'était souvent avec tel et tel personnage qui était présenté, et ça marche ultra bien.
Avant, on est dans l'hommage absolu. Alors, à la toute fin de l'album, parce qu'ils ont, ils ont rajouté un petit peu, moi, ah, pardon, excuse-moi, Anthony, il est en train de lire, donc je lui enlève des mains. On a un petit carnet de croquis, bon, qui après. On sentait qu'il leur manquait deux pages, donc ils ont rempli le... deux pages. Il y a quand même des récits longs, voilà, parce qu'ils s'y sont essayés quand même. C'était un peu, ça amenait tout doucement vers la série animée qui est sortie après par la suite et qui a effectivement cartonné également. Qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus.
Il y avait des récits longs à la fin, des... non ?
Non, je ne sais plus. Je me suis perdu en cours de route. Bah écoutez, ça reviendra quand ça reviendra. Non ? Bah, non, ça ne me revient pas. Je suis navré.
Excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Hein.
Parce que juste en le feuilletant en fait et en voyant Tony montrer quelques pages en fait, j'ai repéré des cases déjà qui m'avaient marqué plus jeune.
Mais c'est ça en fait, c'est qu'il y a des gags qui marquent durablement et en les revoyant, c'est une vraie Madeleine de Proust et moi je trouve ça absolument génial.
C'est ça. Quand il parle surtout par exemple des super héros au pouvoir naze, il y en a un, il s'appelle Super Malgolé, mais ben qu'est-ce voilà. que j'ai ri. Et juste un truc trop con, Super Haleine de Caca. Et il y a vraiment un dessin où on va... C'est dégoûtant au possible, on n'imagine
trop
pas.
C'est hyper radiophonique, le bruit que tu as fait, les gens, ils ont senti le truc qui allait pas.
Moi, je pense qu'ils ont tous froncé les sourcils quand ils l'ont entendu. Mais ouais, c'est, des fois, c'est tellement absurde et débile.
Je trouve ça fabuleux de bout en bout. Les titres sont super... L'écriture de Zep, encore une fois, est géniale. Les titres sont géniaux. Le plus fort de l'univers au monde, forcément, ouais. Il est le roi de la tartine dans la tronche. Captain Biceps, le sani broyeur de la justice. un problème aux dents, les points de biceps sont à votre service. L'agence pour l'emploi, il fait des puzzles avec les squelettes des vilains. Voilà, plein de trucs géniaux. Ce que je voulais dire et que j'avais oublié, mais qui m'est revenu entre temps, c'est qu'à la fin, on a des petits strips qui étaient sortis à l'époque dans le show, où les deux auteurs se mettent en scène. Zep avec les cheveux bleus et Thébault le chauve, et il raconte en fait comment dessiner Captain Biceps en action. Donc voilà, on a des petits gags qui sont très drôles. Et voilà, faut surtout pas
des
passer
inédits,
à côté. Ouais, je pense que c'est un cadeau assez chouette quoi. Alors après, j'ai toujours pas le prix en tête, mais je pense
c'est un cadeau pas cher puisqu'on est à 14,95€.
Ouais, c'est que dalle parce qu'on a
360 pages.
Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, moi, je trouve ça très très bien. Et du coup, Glénat, qui pour l'instant ne faisait que de l'achat de licence avec des séries américaines, là décide de mettre un petit coup de pouce à un petit coup de pouce. On n'en a pas vraiment besoin parce qu'on est vendu quand même des cartons. Un petit coup de poing à Captain Biceps, enfoncer le clou, et ça, je trouve que c'est une bien belle initiative. Donc foncez les gens, c'est que de la bonne.
Allez, tu redonnes vite fait les références et puis on te dit.
Ouais, alors Captain Biceps Ultimate Fighting volume 1 de Zep et Thébault chez Glénat Comics. Le second devrait pas tarder à arriver.
Oh, celui-là, il est pas sorti si tard que ça. Enfin,
non, c'était fin d'année, c'était en novembre 2019. Ouais.
Le 13, pour être exact.
Ouais, moi, j'avais pas la date, mais...
Moi, j'ai triché un peu.
Tu veux dire, Anthony ?
Bah, c'est ça qui est génial, en fait, c'est que du coup, c'est un volume 1. Donc, il va y avoir un volume 2, potentiellement un 3.
Bien sûr.
Mais puisque c'est une compile, en fait, des choses qui existent déjà, je crois pas me planter en disant qu'il y a 7 volumes.
Il y a 7 Captain Biceps, ouais, exactement.
Donc, s'ils vont 3 par 3, il y aura au moins 2 volumes, plus un peut-être à côté. Mais,
Le dernier qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, en l'occurrence, du coup, celui qui a une couverture blanche. Donc, non, mais peut-être que du coup, ça va permettre de donner un second souffle à la série et qu'on verra de nouveaux gags sortir. Et ça, je serait le premier ravi.
Ah oui.
Eh ben écoute, tu m'envoies ravi également. Alors, moi, je suis un peu... pas blasé. Parce que je voulais parler d'un truc que j'ai mis longtemps à lire et que j'ai peur de dégratigner. Alors, si jamais je vois que je mets trop de temps, eh ben, j'en reparlerai la semaine prochaine.
D'accord.
C'est un gros bouquin. Le problème avec les gros bouquins en ce moment, c'est que j'ai peur de rentrer dedans parce que ça prend du temps, que j'ai beaucoup de choses à lire et que malheureusement des fois je suis obligé de sélectionner. Et du coup les grosses lectures, ça m'en fait lire moins, ouais. Mieux mais moins. Et en fait ça marche pas, cette espèce de petit questionnement ne marche pas à chaque fois puisque là j'ai lu Le Serpent et la Lance de Hub aux éditions Delcourt. Qui, ma foi, est un gros bousin, puisque... alors là, la pagination, je crois qu'elle y est...
C'est Hub qui faisait...
Ouais, Oko.
Oko, ouais.
Là, on est sur 180 pages en format franco-belge. Alors, il faut savoir que le franco-belge, souvent, se lit un petit peu plus longuement. C'est un peu plus dur à lire.
Puis c'est écrit acte 1, en plus.
Et c'est écrit acte 1. Alors, c'est vrai que ce sera en 3 tomes. Mmh. Et ça, alors si vous connaissez Hub, donc qui a fait Oko, il y a 4 cycles répartis sur 10 tomes. C'est un enquêteur au Japon médiéval et fantastique. Et du coup, là, on est complètement aux antipodes de ça, puisqu'on se retrouve dans une histoire d'enquête encore, dans l'Empire Aztèque en 1454. Là où c'est hyper intéressant de la part de Hub, c'est qu'il ne voulait pas en fait reparler des Aztèques par le prisme des conquistadors. Donc du coup, ça se passe quasiment 50 ans avant les invasions espagnoles et les massacres qui ont suivi. Et on découvre en fait, in medias res, les aventures en fait de personnages dans l'Empire Aztèque. Et surtout d'un personnage qui va être amené à enquêter sur de mystérieuses momies qui pourraient redéfinir les pouvoirs en place. Alors, je peux pas juger le travail d'Hub, je connaissais ses bouquins Oko avant, mais je ne les avais pas lus, parce qu'on m'a toujours dit que c'était une grande honte. Mais j'avoue que je vais sans doute m'y mettre, tellement son dessin est fort de précision et fourmi de détails. Alors on n'est pas noyé dans le détail, mais on a un dessin qui est extrêmement précis. Il y a des scènes de marché ou des scènes de jungle qui sont extrêmement bien rendues. Qui sont hyper grattés. On a une façon de travailler la couleur aussi qui est hyper intéressante, puisque les rouges, les verts et les jaunes, qui sont par définition les couleurs qu'on associe aux Mayas et aux Aztèques, on les voit bien, elles sont bien travaillées, c'est hyper hyper agréable et ça fonctionne super bien. Et ça se dévore d'une traite. Moi, je l'ai enquillé en 3 jours. N'arrivant pas à mettre à autre chose que de lire ça. L'histoire en plus va nous captiver, puisque du coup ça se déroule sur 3 époques et du coup les personnages sont des personnages qui ont des liens entre eux. On a un personnage qui s'appelle Serpent, qui est un enfant qui est né sans bras, avec des moignons en fait. Donc maudit personnage qu'on ne voulait pas voir, dont les parents ont préféré balancer par terre plutôt que de serrer dans leurs bras, qui va commencer cette enquête. Et puis on a un autre personnage qui s'appelle Œil Lance, qu'on découvre un peu plus tardivement. Alors je condense un petit peu, parce que ça reste un tome d'introduction malgré 200 pages. Hein. Et on a ces personnages qui vont être amenés à enquêter sur la même chose. Mais ils ont, comment dire, des petits trucs qui se sont passés dans leur enfance qui font qu'ils ne peuvent pas se supporter. Donc, ils ont 2 façons de travailler très différentes et ça marche hyper bien. Il y a plein de... C'est inventif, c'est hyper intéressant dans la narration. Il y a une petite vieille qui ne parle que dans un dialecte que Seuil Œil Lance arrive à comprendre. Et du coup, elle s'exprime par... par idiome en fait, donc c'est des symboles comme des hiéroglyphes en fait, sauf que c'est des hiéroglyphes aztèques.
Ah, ça dans la BD c'est retranscrit.
C'est retranscrit comme ça, et nous on ne sait pas ce qu'elle raconte. D'accord. En fait, c'est à nous d'essayer de comprendre à quoi correspond le petit dessin.
Mais tu arrives quand même à décrypter un peu.
Oui, parce qu'il y a toujours Œil Lance en fait qui est là pour traduire ou aider, ouais. Et c'est compréhensif.
S'il y avait ça dans Terre d'Ombre il y a très longtemps, une bande dessinée de Springer avec un personnage qui était une espèce de grande grenouille et qui s'exprimait par des espèces de et on comprenait ce qu'elle disait. Moi, je ne parlais pas, mais j'ai trouvé ça, graphiquement parlant, très intéressant comme code. Et là, on a l'impression qu'il reprend le truc et c'est plutôt chouette.
Ouais. Et ça marche vraiment très très bien. Je ne sais plus ce que je voulais dire.
Pardon, je t'ai coupé.
Non, mais ça marche vraiment bien. On est immergé dedans. Alors, c'est un peu compliqué. Les personnages se reconnaissent suffisamment bien pour qu'on arrive à les identifier. Par contre, je vous mets au défi de retenir les prénoms passé le chapitre 3.
Ouais, dedans, ouais.
Parce qu'il y a des Tlitlotlo, de l'Etlatla, et du coup, c'est hyper relou. Mais ça fonctionne bien. Hub a fait également le pari de rajouter des termes. Des termes mexicains, enfin du langage de l'époque, qui sont traduits en bas. Donc on apprend aussi des choses au fur et à mesure et ça marche hyper bien. C'est vraiment très très bon. Moi j'attends avec impatience le tome 2 et 3, puisque du coup c'est une série qui va se clore en 3 tomes. Et ça va vraiment. Moi j'ai vraiment vraiment adoré.
Et ça c'est sorti il y a combien de temps ?
Je ne saurais même pas te dire.
D'accord.
Ça fait un moment que c'était sur ma pile. Et,
ah oui, d'accord, donc on n'est pas sur une nouveauté.
C'est pas sur une nouveauté. Okay, that's all, folks. Je redonnerai la date. Je pense que je reparlerai directement à la sortie du tome 2, mais ça ne doit pas être si vieux que ça, hein. Je dirais fin d'année. Je ne vais pas avoir le temps d'aller chercher les infos.
Non, mais t'inquiète, c'était juste parce que c'est vraiment, je trouve ça chouette.
C'est vraiment très très bien, c'est vraiment hyper agréable. Et,
le dessin, il envoie un sacré pâté, dis donc. Hein.
Ouais, mais ça marche super bien. Il est 19h58, c'est l'heure pour nous de rendre l'antenne et de laisser la place à sa part en live, Ben et ses comparses, Ben, Jérémy et j'ai perdu le prénom, Louise, qui vont pouvoir vous parler de musique en direct. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et surtout, n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Kaizoku Oni. Ore wa naru.
Oh, la petite schtoumpf.
Trop vite. Tu n'es pas chez toi ici.
Justement, les touristes de bord.
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir